Père Philippe Capel-Dumont, entre autres, vous êtes président de l'Académie catholique de France, vous êtes aussi président de la Société francophone de philosophie de la religion, vous êtes donc un philosophe, mais vous n'êtes pas qu'un philosophe, vous jouez aussi de la musique. Quel instrument jouez-vous ?
Je suis pianiste depuis ma tendre enfance. Je suis tombé dans un piano étant tout petit, à 7 ans. Je suis né dans une famille de musiciens. Et très vite, je jouais du piano. J'ai même d'ailleurs joué du piano avant même d'apprendre le solfège. Et comme ma famille était musicienne, il n'y a pas eu trop de difficultés pour que je devienne apprenti pianiste. Mais je jouais un peu comme les oiseaux. Je jouais du piano et très vite, j'ai improvisé. Je connaissais le clavier par cœur très jeune. Dès après, évidemment, comme tout étudiant, tout apprenti, j'ai fait les gammes. J'ai fait les gammes et puis j'ai fait des récitals. Étant jeune, mais je pense que je n'avais pas le niveau pour faire une carrière professionnelle. Mon professeur de piano qui me surestimait, qui surestimait mes talents, avait envisagé pour moi une carrière musicale et donc avait déjà programmé mon entrée au Conservatoire National, mais je considère intérieurement que je n'étais pas au niveau. Mais cela dit, j'ai toujours conservé de grands amours pour le piano et je n'ai jamais vécu une seule journée de ma vie ou presque sans jouer du piano et de l'orgue.
Et vous dites, Père Philippe Capel, que justement la première chose que vous essayez de regarder quand vous arrivez dans un endroit, c'est « y a-t-il un piano ?»
Ah bah oui, alors en tant que prêtre, je sais qu'il y a une église pas très loin, donc un Saint-Sacrement, donc tout va bien, mais le piano, ça ne va jamais le soi. Et de fait, je n'ai jamais pu vivre dans une bâtisse quelconque. Même lorsque j'étais jeune professeur en Afrique noire, par exemple, je m'étais arrangé pour faire du piano chez les collègues américains qui étaient juste à côté et qui me prêtaient dans leur collège, qui me prêtaient leur piano. C'était pour moi une affaire de survie. Je dirais que oui, le piano fait intégralement partie de ce dont j'ai besoin pour m'alimenter au quotidien. Alors évidemment, je suis, vous l'avez rappelé, philosophe, j'enseigne la philosophie, j'enseigne la théologie, mais je puis vous dire que grâce au piano, grâce à la dimension très physique, très presque charnelle du piano, on est d'emblée dans le monde avec la musique. On est dans l'épaisseur des vibrations du monde. La vie intellectuelle comme telle n'est pas nécessairement, si elle est pratiquée exclusivement, n'est pas un modèle d'équilibre humain. Il faut honorer toutes les composantes. Et la musique est ce par quoi le monde est dit, d'emblée. Non pas parce que vous avez des émotions à exprimer, mais parce que la musique, la note de piano elle-même, comme Chopin le faisait, ou comme Beethoven, dont je suis un beethovenien absolument irrépressible. Et Beethoven, vous savez, Beethoven avait cette phrase « Ce que j'ai en moi, il faut que cela sorte ». Il était croyant. C'était un christianisme protestant. Il est mort très jeune, il avait 57 ans. À l'époque, c'était très vieux. Mais il vivait son rapport à la musique, au piano, à la production musicale, comme véritablement quelque chose qui devait sortir de lui-même, comme si la puissance spirituelle qui l'animait devait trouver aussi, et pas seulement dans l'écriture, mais dans le piano, l'expression la plus forte. Donc je pense que, en tout cas pour moi, le rapport au piano et à l'orgue, si j'ai joué très longtemps, j'ai suivi autrefois les cours de Jean Bonfils, qui était un très connu dans le monde des organistes, puisque c'est lui qui a noté toutes les partitions, les cantiques de toutes les liturgies dans les années 70. Et Jean Bonfils était très exigeant et m'a vraiment initié à l'exigence de l'orgue. Et donc, pendant des années, j'ai accompagné les liturgies avant d'être prêtre dans les églises. C'était pour moi aussi, quand j'ai découvert l'orgue, parce que l'orgue dit ceci de spécifique, c'est que vous avez sous les doigts un orchestre. Vous n'avez pas que deux mains, vous avez des pieds aussi. Et vous avez des registres, vous avez 3, 4 registres, parfois 5. Et donc vous êtes à la tête d'un orchestre. Et d'une certaine manière, vous arrivez à tenir ensemble le rapport individuel à la chose et en même temps, vous êtes dans la pluralité immédiate. Quand vous faites sonner le clairon, la trompette, le grand orgue, le récit, vous voyez bien que vous dites un monde. Vous dites un monde et le monde parle à travers ce que vous êtes en train de faire. Le philosophe, que fait-il ? Le philosophe fait un travail réflexif, conceptuel, métaphorique et de reprise intellectuelle. Mais il a tout intérêt à entendre ce, et à se ravitailler auprès de ce que la musique fait, qui est le monde dans les vibrations, même cosmiques. Au fond, le piano a une dette à l'égard du cosmos. C'est des vibrations, ce sont des choses, des sons agencés, mis en ordre et qui deviennent harmonieux. Les Grecs avaient déjà vu ça.
Et justement, est-ce qu'on peut dire, Père Philippe Capel-Dumont, que vous avez comme un clavier intérieur ?
Oui, j'aime beaucoup votre formule, elle est très, très séduisante. Oui, on peut dire cela. D'abord, le clavier, vous savez que c'est un mot qui vient du mot claver, clavis, la clé, qui est un mot dans l'usage moderne au XVIe siècle, signifiait l'anneau qui tient les clés ensemble. Et donc le clavier, c'est ce qui tient au fond les sons ensemble. Et le clavier dit tout de suite quelque chose de structuré. C'est-à-dire que l'improvisation, quand vous improvisez, on disait de Chopin qu'il semblait toujours improviser. Pourquoi ? Parce qu'il avait la maîtrise parfaite de la structure. Il n'y a pas d'improvisation sans structure. Le clavier, c'est quoi ? Ce sont des notes, c'est 88 notes généralement, dont 53 les blanches. Vous savez, les notes blanches sur les pianos hein, qui donnent la gamme diatonique. Et puis les noires, il y en a 36 hein, dans les claviers qui font 8 généralement, 8 octaves. Eh bien, précisément à ce moment-là que se passe-t-il ? Eh bien, vous êtes en train de vous dire « je peux jouer, je peux improviser, je peux, mais j'ai... » Pourquoi ? Parce que j'ai une structure. Et d'une certaine manière, c'est une belle métaphore pour la vie spirituelle aussi. C'est-à-dire que le fait d'avoir un clavier, une structure, avec des notes universellement observables sur lesquelles tout pianiste va travailler, s'exercer, c'est à partir de cette structure que l'improvisation est possible, que la création est possible. Et la création, pour nous, humains, part toujours d'une mémoire. Seul Dieu crée ex nihilo. Nous créons, nous composons la création musicale. C'est un acte créateur, créatif, mais c'est toujours à l'image et à la ressemblance du créateur. Et le clavier est là pour nous rappeler que nous avons une mémoire déjà, un donné à partir duquel nous pouvons créer. Alors le clavier intérieur, c'est une belle métaphore, précisément dans la mesure où la vie spirituelle elle-même n'est pas une improvisation. On peut toujours avoir l'impression qu'un prédicateur improvise. En fait, pas du tout. Il est porté par une structuration, une lente maturation et tout à coup un peu comme l'oiseau qui a musclé ses ailes se met à voler, mais précisément antérieurement il y a cette structure. Donc on peut dire cela, c'est une très belle formule que de dire que nous devons avoir un clavier intérieur précisément pour pouvoir devenir libre.
Alors vous avez parlé, Père Philippe Capel-Dumont, de la création, du monde de la création dans la musique, et bien évidemment, là, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec la théologie.
Alors, la théologie, premièrement, parle de la création. C'est une question probablement les plus difficiles et peut-être les plus urgentes à traiter aujourd'hui. La création est un mot œcuménique. On le retrouve dans l'art, on le retrouve dans la théologie, on le trouve dans la science aussi. Lorsqu'on parle de théorie de l'évolution, est-ce qu'il y a création ? C'est une question qui est immédiatement posée quasiment dans toutes les sciences. Le théologien, tout particulièrement, lui, sait que la création qu'il va produire, c'est une création qu'il doit produire au titre même du fait qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. S'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors il ne peut pas être simplement un passif ou un fataliste. Il doit honorer le Dieu qui l'a fait en étant lui-même créateur.
Donc, comme celui qui interprète un morceau de musique.
Exactement. Il faut recréer. De même que l'interprète ne peut pas être simplement un imitateur. Saint Augustin, dans son traité De Musica, stigmatisait très fortement les interprètes qui étaient simplement des imitateurs. Ce sont des médiocres. On n'a pas à imiter. L'interprète est celui qui habite à nouveau et recrée, en quelque sorte, le texte. Recrée de façon tout à fait nouvelle ce qui a été donné. Évidemment, aujourd'hui, avec les enregistrements, les CD, on peut très bien dire que c'est enregistré une fois. Vous avez remarqué, il y a encore beaucoup de versions, précisément. Pourquoi ? Parce que la musique ne s'accommode pas de l'enfermement. Elle est toujours nouvelle, elle commence toujours, elle a besoin de commencer. Et l'interprète est celui qui donne un commencement nouveau à la partition.